Alors, l'idée ce matin, si vous voulez, c'est de nous aider à mieux rentrer dans ces démarches que nous proposons tous les premiers samedis du mois, déjà depuis 2017. Enfin, pas ici. Ici, depuis novembre dernier, voilà. Donc, qu'est-ce que nous venons faire et voilà, quelles sont peut-être les petites choses ou les grandes choses à rappeler pour que nous puissions mieux vivre ces temps de prière. Je vous rappelle que dans l'après-midi, nous allons prier et nous prions pour la délivrance d'une façon générale. Alors, je vous raconte la genèse de cette affaire-là. Ça s'est passé en 2017 pour le centenaire de Fatima. Et moi, on me disait comme exorciste, tu vas t'épuiser, c'est pas possible, etc. Parce que on n'arrive pas à répondre à tous ceux qui frappent à notre porte. Donc je me suis dit, ce qui me prend beaucoup, c'est la lutte contre la magie noire. Donc tous les gens qui ont des problèmes avec la magie noire, je les invite. Mais c'était de façon très discrète, vous comprenez. Donc j'ai invité une vingtaine de personnes, on s'est réunis dans le presbytère en Vendée, mais on était un peu serré. Donc j'aurais dit, la prochaine fois, eh bien on se retrouvera dans l'église. Mais je leur ai dit, surtout, vous n'en parlez à personne. Ce que je voulais, j'avais un peu peur qu'on monte au plafond pendant la prière, vous voyez le genre de truc. Bon, en tout cas, ils étaient le double la fois d'après, et la chose nous a complètement échappé. Donc assez vite, on a été 100, et puis après 200. Bon, en gros, autour de 200 en Vendée, puis après en Mayenne. Les gens venaient d'assez loin aussi. Donc, on a pris conscience qu'il y avait un vrai besoin. Bon, et puis c'est notre façon de vous dire, l'Église s'occupe de vous, quoi. Vous n'arrivez pas à avoir un rendez-vous avec l'exorciste, ben, l'Église s'occupe de vous, c'est vrai. Dieu agit d'une façon, avec tout ce qu'il... avec tous les moyens. Pas forcément avec un seul moyen. Alors, aujourd'hui, pour aborder la question, on ne sait pas trop de quel côté l'aborder, mais on va quand même réussir à l'aborder. J'avais envie de vous faire quelques petits rappels de catéchisme. Enfin, bon, vous n'en avez sans doute pas besoin. Mais ça peut-être nous éclairer de faire quelques petits rappels de catéchisme. Voilà. Donc, est-ce que vous vous rappelez, peut-être commencer par ça, des 10 commandements, qui sont très mal nommés, hein, parce que les 10 commandements, dans la Bible, ça ne se dit pas commandement. C'est Devarim, les 10 paroles. Dieu n'est pas un gendarme qui nous fait des commandements. Il y a des interdits et des permis. Voilà. Dieu est un père qui nous donne le mode d'emploi de la vie. Et nous dit, fais ceci et tu vivras. Allez, un tout petit rappel des 10 commandements. Je vous laisse parler parce que c'est quand même... Premier commandement, tu adoreras Dieu seul et tu l'aimeras plus que tout. Plus que la télé, par exemple. Non, je ne regarde personne. Deuxième commandement, je n'entends pas très bien. Tu aimeras ton prochain comme toi-même, c'est pas le deuxième commandement. Bon, il faut faire des révisions. Hein. Alors, deuxième commandement, tu ne prononceras le nom de Dieu qu'avec respect. Attention à la façon dont nous prononçons le nom de Dieu. D'accord ? Troisième commandement. Bravo. Donc, qu'est-ce qu'on fait le dimanche ? On va à la messe. La messe, ça dure combien de temps? Et le dimanche, ça dure combien de temps? Donc, il reste combien de temps à sanctifier? 23 heures, quand on a été à la messe. C'est intéressant de réfléchir là-dessus. Qu'est-ce que tu fais avant et après la messe du dimanche? Journée consacrée au Seigneur. Alléluia. On respire. Quand les gens sont fatigués, je leur demande qu'est-ce qu'ils font le dimanche. Quatrième commandement. Tu honoreras ton père et ta mère. Cinquième. Tu ne tueras pas. Sixième. Tu ne commettras pas, enfin tu feras pas d'adultère. Donc pas d'impureté. Pas d'impureté. Tout ce qui est impureté, sixième commandement. Ok. Septième commandement. Tu ne voleras pas. Huitième. Tu ne mentiras pas. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Yes. Neuvième commandement. Tu n'auras pas de désir impur. Et dixième. Il y a une anti-sèche là. C'est bien. Voilà, tu ne désires pas injustement les biens des autres. Bon, maintenant les péchés capitaux. Allez, de plus en plus dur. C'est quoi les péchés capitaux? Si on commence par le haut, c'est-à-dire la tête, on va commencer par le bas. Donc, gourmandise. Monte un petit peu. Luxure. Maintenant, on s'occupe des biens extérieurs, mais des biens là. Ensuite, c'est avarice. Ensuite, on rentre dans la psychologie. La paresse, la jalousie, la colère, et puis enfin, le péché capital par excellence, l'orgueil. Très bien. Vous êtes bon. Bon, alors tout ça pour nous faire comprendre que notre Dieu est le Dieu de la vie. D'accord ? Et s'il nous dit « tu ne vas pas toucher à l'arbre là », c'est pour établir une alliance avec nous. À nous d'accepter qu'il y a des limites. Parce que nous sommes faits pour être dans les mains de Dieu, d'accord ? Et quand on est dans les mains de Dieu, on est de plus en plus libre. Parce que par nous-mêmes, on ne peut pas tout faire. Or, le démon, dans Genèse, d'abord il fait un mensonge, il dit « Ah, Dieu vous a dit que vous ne pouvez pas toucher de tous les arbres du jardin. » Bon, c'est faux. Vous n'avez pas dit ça, Dieu. Ça commence par un mensonge. Et lui, il nous fait croire qu'effectivement, on peut toucher à tout, y compris avoir la connaissance du mal. Que la connaissance du mal, c'est-à-dire le mal entendu comme chemin de mort éternel, et bien que ce chemin du mal, ah ben c'est pas mal. Alors, et ça c'est la logique luciférienne si vous êtes intéressé par certains trucs qu'il ne faut pas forcément lire, mais la Bible de Satan, enfin voilà. Les lucifériens pensent qu'il y a un mensonge dans la Bible. Bon. Et le principe, c'est ça. Waouh, moi je peux toucher à tout, de toute façon, ça ne me fera pas de mal. Ok. Mais Dieu nous dit, en nous donnant les 10 commandements, fais ceci et tu vivras. Je mets devant toi la vie ou la mort, Deutéronome 30, 15 et suivant. Eh bien, la vie si tu suis mes commandements ou la mort si tu ne les suis pas. Alors on va dire, il est méchant ce Dieu, il nous punit. Eh ben non, pas du tout. Il ne nous punit pas du tout. Mais il nous dit, voilà ce qui donne la vie, mais voilà ce qui donne la mort. On ne touche pas à ça, ça donne la mort. On va dire, j'ai quand même envie de manger ce fruit-là, ça a l'air bon et agréable. Bon, vous voyez, mais Dieu n'a rien à voir avec une espèce de gendarme qui va nous donner des lois, qui nous restreignent. Mais c'est au contraire celui qui nous crée ici et maintenant, formidable, on est créé par Dieu en ce moment même, la Providence. Nous sommes dans ses mains, et plus nous serons unis à lui, et plus nous serons donc nous-mêmes, pleins de vie. Voilà. Alors, notre malheur, s'il y en a un, eh bien, nous le savons, c'est notre péché. Alors, le mot péché est un mot qui est chargé, on va dire, de plein de mauvaises interprétations. Vous savez, ça fait un peu ringard, le péché. On se moque un peu de ça. Bon, alors il faut comprendre l'enjeu du péché. Et quand on va se confesser, c'est pas pour faire une liste du style « j'ai été gourmand, j'ai jugé l'autre, et puis j'ai fait un avortement, et puis j'ai mangé trop de confiture. » Voilà. Et puis après, absous, basta. Attendez, Dieu n'est pas un gendarme. Mais Dieu va accueillir celui qui revient. Non seulement il l'accueille, mais il le guette. Le guette avec désir et avec douleur. C'est le cri de Jésus, j'ai soif. Jésus nous révèle le Père. Qui m'a vu le Père. Alors, le péché est l'unique, je dis bien l'unique, raison de nos malheurs. Parce que le péché est séparation de Dieu. Et lorsque nous sommes dans le péché, il y a un plan de Dieu qui ne pourra jamais s'accomplir à cause de notre péché. C'est pas de moi, c'est Jacques Maritain. Et je trouvais ça assez parlant. Un projet de Dieu qui ne peut pas s'accomplir parce que nous avons posé un acte de rupture. Alors, il nous faut comprendre les conséquences du péché, justement. Quelles sont les conséquences du péché ? Alors, c'est là où on a besoin de revoir un peu notre catéchisme. Donc, on a l'habitude de dire que, et c'est vrai, parce que c'est le catéchisme qui le dit, que la conséquence du péché, c'est un certain désordre, oui, mais c'est ce qu'on va appeler la peine de péché. D'accord ? Les peines. Alors vous avez la peine éternelle, c'est la peine du damne, être éternellement séparé de Dieu, en cas de péché dit mortel, c'est-à-dire très grave. Et puis, la peine temporelle. Alors, comment, finalement, c'est quoi cette peine ? La petite Thérèse, quand elle parle de la peine, elle parle d'une tristesse. Le péché nous rend triste. Il y a une tristesse. Et cette tristesse, elle a besoin d'être réparée. On a besoin d'être guéri, cette tristesse. C'est le curé d'Ars qui disait, moi, si un jour j'étais triste, j'irais me confesser. Parce que le péché nous sépare de Dieu. Et ça crée comme une espèce d'habitus en nous, vous voyez. Si on tombe une fois, on va tomber peut-être plusieurs fois dans la même ornière. Il y a des habitus. Et suivant, après les familles, il y a des péchés de famille. Vous voyez ce que je veux dire ? On va retrouver de génération en génération l'alcool, un espèce d'esprit de domination, tout ça. Enfin, voilà. Donc, ça devient une habitude perso, mais collective. La peine du péché va être levé par la grâce, évidemment. Alors, quand on se confesse, il y a ce qu'on appelle les actes du pénitent. Donc, on est toujours dans le catéchisme. Les actes du pénitent, premier acte du pénitent, c'est la contrition. Imaginez que je vous ai marché sur les pieds et en rigolant, je vous ai dit « excuse-moi ». Pensez que ma démarche est vraie ? Non. Pour que notre démarche soit vraie, une condition, c'est la contrition. conviction. Et c'est vrai que dans l'Église d'Orient, plus que dans la tradition occidentale, on parlera de pleurer son péché. Non pas parce qu'on se trouve nul, parce que ça, ce sont des pleurs, on va dire plutôt du vieil homme en nous, j'y arrive pas, je suis nul, etc. C'est l'orgueil perso, quoi. Non, mais parce qu'on a conscience d'avoir offensé Dieu, qui est amour. Et ça, c'est une vraie souffrance. Notre corps est transpercé, si vous voulez. C'est la vraie contrition, c'est la contrition de Saint-Pierre au moment où il a trahi pour la troisième fois. Et Jésus le regarde et son cœur est transpercé, la contrition. La contrition, qui vous le remarquez, ne nous enferme pas sur nous-mêmes, contrairement au remords. Vous êtes tout seul avec votre faute, je ne dirais pas votre péché, parce qu'il n'y a pas Dieu, votre faute, tout seul, et vous assurez, vous, le tribunal. Et vous dites, je suis impardonnable. Vous avez reconnu Judas. Quand il va rendre l'argent, j'ai livré un innocent, on lui répond, vois toi-même. Et lui-même se condamne. La contrition n'est pas le remords, c'est le premier acte du pénitent. On a besoin de revenir à Dieu contrit. Oui. Je vous ai peut-être raconté l'histoire de cette personne à la suite d'un topo comme ça. J'avais parlé entre autres de l'avortement. Elle a pris rendez-vous avec moi et cette femme qui avait 58 ans, elle avait fait un avortement à l'âge de 18 ans. Elle s'était confessée, mais du style « comme tu te confesses que tu as mangé trop de bonbons, quoi ». Ok. Et 40 ans après, ça a fait un peu tilt, ce qu'on a raconté sur ces choses-là, et elle a voulu se reconfesser. Parce que là, elle a compris la gravité de son péché. Et là, j'ai accepté qu'elle se reconfesse. Parce que quand les gens reconfessent toujours le même péché, moi je dis non, attendez, vous êtes pardonné de ce péché-là. C'est vous qui ne vous pardonnez pas. Donc vous allez confesser le fait que vous ne vous pardonnez pas. C'est une autre forme de péché, un manque de foi. Lâchez votre tribunal. Vous comprenez ? Voilà, contrition. Ça, c'est le premier acte. Ensuite, le deuxième acte, c'est qu'on va recevoir le pardon des péchés, d'accord ? Et le pardon des péchés va nous réconcilier avec Dieu. On s'est séparé de Dieu quelque part. Pour ça, ça aide tellement dans la vie de prière. Si votre prière est un peu faiblarde, du style « Ah, c'est sec, je sens rien », etc., allez vous confesser plus souvent. Et vous allez retrouver une joie en Dieu que peut-être vous avez perdue. Ça, c'est les fruits de l'absolution. On est restauré dans notre relation à Dieu. Bon, vous savez que la Sainte Vierge à Médiogorier, elle nous recommande de nous confesser une fois par mois. Mais ça peut être bien de se confesser plus souvent. Bon, Jean-Paul II, c'était tous les jours. Je ne pense pas qu'il était beaucoup plus pécheur que l'un d'entre nous, mais bon. Voilà. Parfois on me dit, mon père, j'ai pas de péché, j'ai pas tué, j'ai pas volé, je sais pas quoi dire. Alors moi je réponds, je vais vous donner des idées. Est-ce que tu as aimé comme Jésus a aimé ? Bon, on n'a pas vraiment aimé comme Jésus a aimé, et on peut demander pardon tous les jours pour ça. Seigneur, tu me commandes d'aimer comme toi. Pour ça, il faut que le Saint-Esprit soit dans mon cœur. Il y a des jours où je n'accueille pas le Saint-Esprit. Enfin, plutôt des moments où je n'accueille pas le Saint-Esprit. Ok. Bon, l'absolution. Mais après l'absolution, il y a une notion qu'on a un peu oubliée et que je voulais vous rappeler aujourd'hui. C'est une notion qui s'appelle la pénitence ou la réparation. Waouh, on n'aime pas ces mots, hein. La réparation, la pénitence, c'est triste. Au Moyen-Âge et avant, on parlait des pénitents. En Espagne, ils ont des chapeaux pointus. Bon, ça fait triste, quoi. Voilà. Donc, nous, on a évacué. Pour votre pénitence, vous me ferez un je vous salue Marie. Ok. On n'a pas peur de ridicule. Ben oui, parce que. Il nous faut prendre conscience que si le plan de Dieu à cause de notre péché ne peut pas se réaliser, comme lui il l'avait prévu, d'accord, il va falloir réparer. Bon, je vais vous dire un gros truc. Si j'ai éclaté la figure de mon voisin et qu'il a perdu toutes les dents de devant, bon, je lui ai demandé pardon, il va me pardonner, j'espère. Mais il va falloir que je lui répare. Je vais lui payer un dentier. Et puis, je vais lui payer un bon psy. Hein, pour qu'il puisse gérer la violence, tout ça, tout ça. Bon, alors, vous comprenez bien qu'au niveau spirituel, il y a d'autres choses qui ont été dérangées, vous voyez. Parce que lorsque je suis dans le péché, imaginez, je suis franc-maçon, d'accord. Pas vrai. Et que, du coup, vous savez que la franc-maçonnerie est luciférienne, ok, bon, eh bien, si je pactise avec Lucifer à travers la franc-maçonnerie ou les Rose-Croix, je sais pas quoi, mais qu'est-ce qui se passe? Je permets aux démons de passer, de s'emparer de mes droits légaux. Or, si je suis un parent, j'ai un droit légal de bénédiction ou de malédiction sur mes enfants. Est-ce que vous me suivez? Donc, si je pactise, eh bien, je permets aux démons de participer, en fait, de voler, de passer par mon droit légal. Et du coup, il peut effectivement avoir droit de malédiction sur mes enfants. Est-ce que je me fais comprendre? C'est vrai pour ce type de péché, mais c'est vrai pour d'autres péchés. Et là, ça s'appelle la malédiction. Et ça, on n'en parle pas beaucoup, et à mon avis, pas assez dans l'Église catholique. Alors, c'est quoi la malédiction? C'est aussi la conséquence du péché, oui, mais qui va toucher non seulement ma vie, mais mon entourage. Et éventuellement, un entourage large. Alors, cette notion-là, au moment de la Révolution française, vous savez, où il y a pas mal de têtes qui ont été coupées, et où on a blasphémé le nom de Dieu. Vous avez qu'à aller au Panthéon à Paris, on a remplacé le tabernacle par Marianne, puis des gens qui sont comme ça, hein. Donc blasphème. Eh bien, on avait conscience de ça, après surtout les années de terreur et tout ça. Hein. Et il y a eu tout un mouvement au 19e de réparation. Vous aviez les sœurs réparatrices, de ceci, etc. Et je vous rappelle que la basilique de Montmartre à Paris a été édifiée en réparation. Mais, un peu plus tard, c'est-à-dire maintenant, il semble que nous ayons oublié la nécessité de la réparation. Alors, comme vous savez, j'ai passé du temps en Vendée, et en Vendée, j'ai été frappé aussi par l'influence de l'histoire. Les guerres de religion, les guerres de Vendée. Il y a une malédiction, pas sur toute la Vendée, mais sur des lieux de Vendée. Oui, ça je peux vous le dire. Moi j'ai été dans des lieux, on me disait le voisin à côté elle est divorcé, la voisine à côté elle a eu un cancer. Là, c'était l'hécatombe. Et moi j'apprenais que c'était pile poil le lieu où il y a eu un massacre pendant la Révolution. C'était au bord de la vie, pour ceux qui connaissent la Vendée. Alors, vous voyez, l'ennemi fait des drôles de plaisanteries. Donc, par notre prière, bonne nouvelle, on va pouvoir casser les malédictions. Et c'est pourquoi nous nous réunissons aussi. Parce que ces malédictions, elles sont donc comme un droit de l'ennemi qu'on lui a donné par notre péché. Comprenez ? Donc, si j'ai une confession en disant « Ah, j'ai tué mon voisin, ce qui m'embêtait, et puis j'ai mangé trop de chocolat, Père bénissez-moi », vous comprenez que on est complètement à côté de la plaque. Parce qu'il y a un désordre spirituel aussi. Et il va falloir agir. La Bible nous dit, elle nous parle de la malédiction et de la bénédiction, mais elle en parle, si vous voulez retrouver les passages, dans Deutéronome 27, « Maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » Je répète, « Maudit soit celui qui ne maintient pas en vigueur les paroles de cette loi pour les mettre en pratique. » C'est Dieu qui parle. Mais vous comprenez bien que Dieu, il ne maudit personne. Simplement, il te dit, si tu es à l'ombre, tu n'es pas au soleil. Si tu es dans la cave, c'est bon pour les champignons, mais c'est pas bon pour toi. Tu es fait pour vivre à la lumière. C'est comme ça qu'il faut comprendre la malédiction dont il est question. C'est exprimé d'une autre façon dans la Bible, dans Exode 34. Vous me permettez ? Ça me réchauffe. Merci. Alors, Exode 34, vous connaissez tous par cœur. Le Seigneur descendit dans la nuée et vint se placer là auprès de Moïse. Il proclama son nom qui est le Seigneur. Il passa devant Moïse et proclama « le Seigneur, Dieu tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour et de vérité. Qui garde sa fidélité jusqu'à la millième génération, comprenez tout le temps, supporte faute, transgression et péché, mais ne laisse rien passer. » Car il punit la faute des pères sur les fils et les petits-fils jusqu'à la troisième et la quatrième génération. Ok, vous allez me dire, t'es sympa, mais t'as oublié de me parler de Ézéchiel 16. Parce que Ézéchiel 16, c'est, eh bien, on n'entendra plus ce dicton. Non, c'est Ézéchiel 18, pardon. Qu'avez-vous donc dans le pays d'Israël à répéter ce proverbe ? Les pères mangent du raisin vert et les dents des fils en sont irritées. Par ma vie, oracle du Seigneur Dieu, vous n'aurez plus, vous voyez que c'est au futur, vous n'aurez plus à répéter ce proverbe en Israël. Celui qui a péché, c'est lui qui mourra. Le fils ne portera pas la faute de son père, ni le père la faute de son fils. La justice sera la part du juste, la méchanceté celle du méchant. Oui, mais la Bible ne peut pas se tromper. Entre Exode 34 et Ézéchiel 18, c'est quand même le même auteur, le Saint-Esprit, on est d'accord ou pas ? Bon, ça veut dire que Ézéchiel 18, Jésus, nous le savons, va porter cette malédiction du péché. Et on ne dira plus la faute des pères, va aller sur le Fils. Parce que c'est Jésus qui s'est fait malédiction pour nous. Vous vous rappelez de cette parole ? Jésus s'est fait malédiction pour nous. Galates 3, verset 13. Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi en devenant lui-même malédiction pour nous. Il l'a porté. Le sang de Jésus a effacé, sauf que ça ne se fait pas tout seul. D'accord ? C'est pas un magicien. Oui. Et nous, dans notre prière, nous allons invoquer le sang de Jésus 1 an, 2 ans, 3 ans, ou très longtemps s'il le faut, pour que la malédiction soit levée. Est-ce que vous comprenez ? Christ a payé pour nous libérer de la malédiction de la loi, en devenant lui-même malédiction pour nous, puisqu'il est écrit « Maudit quiconque est pendu au bois ». Cela pour que la bénédiction d'Abraham parvienne aux païens en Jésus-Christ, et qu'ainsi nous recevions par la foi l'Esprit, objet de la promesse. Alors, vous voyez que, donc je récapitule, quand on se confesse, on va évidemment regretter son péché, on ne va pas se confesser parce qu'il faut se confesser une fois, tous les combien, je ne sais pas quoi, et on est en règle, je me suis confessé, balayé, non, on se confesse parce qu'on regrette vraiment, on pleure son péché. Vous vous rappelez, c'était le curé d'Ars qui se met à pleurer, et puis le pénitent lui dit « Qu'est-ce que vous avez à pleurer ?» Il lui répond « Je pleure de ce que vous ne pleurez pas. » Le pardon qui va nous réconcilier avec Dieu, mais entre-temps on a été abîmé, on a abîmé autour de nous, donc il y a la pénitence, la réparation. Et cette pénitence et cette réparation, elle nous touche nous, oui, mais elle touche notre entourage. D'où l'importance aussi de bénir nos maisons, pas d'une façon, vous savez, superstitieuse, toujours à rajouter du sel dans tous les coins, parce qu'on ne sait jamais. Non, Dieu est le fort. Bon, on le fait de temps en temps, oui, de bénir, mais il est là, quoi. Hein, on va consacrer nos lieux de vie. On va se consacrer soi-même, parce que si vous dites, moi, je vais à la messe, oui, mon père, je suis croyant, j'ai tout fait, baptême, confirmation, première communion. Et on rajoute, et dernière communion. Moi, je rajoute en général, vous avez la même foi que le démon. Vous avez la foi du démon. Il y croit, en la présence réelle, la Sainte Vierge, tout ça, il adhère pas. Alors que nous soyons consacrés, oui. Et ça, c'est la vie chrétienne normale. Comment demander une délivrance si on se sert de Dieu juste quand on en a besoin ? Alors, Seigneur, moi, aujourd'hui, il me faudrait tel truc, tel truc, tel truc, et puis telle délivrance. Délivre-moi, Seigneur. Ah non, c'est pas comme ça que ça marche. Puisque la délivrance, c'est dans le chapitre pénitence, réparation. C'est ça dont il s'agit. Donc de revenir à Dieu de tout son cœur, tout son âme, tout son esprit. C'est le premier commandement. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu comment ? De tout ton cœur, tout ton âme, tout ton esprit. Les Juifs le répètent 3 fois par jour. Shema Israël, Adonai, Eloheinu. Mais c'est la suite. Voilà. Donc l'importance de se consacrer, oui, complètement, corps, âme, esprit, à Jésus. Que nos maisons soient consacrées et que nos églises, elles ont été consacrées, d'accord ? Mais nos paroisses. On a consacré la paroisse l'année dernière, je crois. Hein? Bon, et notre pays? À qui est-il consacré, d'après vous? Bon, en principe, il a été consacré à Saint-Michel, à la Sainte Vierge, ok. Sauf que, vous savez qu'il y a d'autres consécrations qui sont faites de la France. On a vu ça dans une prière d'exorcisme. Il y avait une personne qui était là et qui a eu une vision d'une église. Et dans l'église, il y avait un tourbillon satanique. Et il y a une amie qui a cherché sur Internet et elle a trouvé, c'était le Panthéon, où il y avait une exposition d'art japonais. Et devant, on est à peu près là, devant le cœur, donc je vous rappelle, au Panthéon, le cœur, c'est Marianne. Dans la coupole, il y a encore Jésus, quand même, hein, Panthéon, si mes souvenirs sont bons. Et là, on a une profanation. Et effectivement, juste au-dessus, vous aviez un espèce de truc japonais avec des dragons tout autour et ça montait vers le haut. Effectivement, vous avez aussi des lieux de consécration luciférien à Paris et ailleurs. Alors vous comprenez que moi j'écoutais le témoignage d'un ancien prêtre luciférien, pas longtemps. Bon, c'est sur un YouTube, vous l'avez peut-être entendu. Et lui, il disait, mais enfin, lui en tant que sataniste, il priait toute la nuit. Hein. Où sont les cathos? Où est la prière? Vous voyez, quand on nous dit, mon père, la messe, elle était trop longue, ça a duré 1h20. On se fait casser la gueule à la sortie des églises quand la messe du dimanche a duré plus d'1h15. Vous ne vous rendez pas compte, mon père, on voit bien que vous n'avez pas d'enfant, puis le poulet, tout ça. Voilà. C'est horrible. Ah, vous comprenez bien que là, ce type de pratique du balai, quoi. Enfin, soyons des adorateurs en esprit et en vérité. D'accord? Il faut que notre être tout entier soit donné à Dieu. Il n'y a pas de délivrance, sinon. Il y aura peut-être une délivrance qui va durer 15 jours. Allez, mettons un an ou deux, et ça va revenir. Vous allez voir ça. Non, vous n'allez pas le voir, parce que vous êtes convaincus quand même. Si vous videz un lieu, eh bien, il faut le remplir après. Et le même prêtre luciférien, il s'est converti. Donc, c'est quand même une bonne nouvelle. Hein. Il s'est converti. Vous savez comment il s'est converti? Parce que vous savez que dans le satanisme, il faut tuer pour avoir des pouvoirs. Alors, lui, il fallait qu'il tue une chrétienne. Alors, il y allait avec ses maléfices et tout ça. Bon, etc. Ça ne marchait pas. Alors quand même, on lui résistait, quoi. Et puis un jour, il a un colloque avec le voisin du dessous, quoi. Et puis il lui demande, pourquoi ça ne marche pas? Il lui répond, elle n'est jamais seule. Celle-là, elle n'est jamais seule. Je ne peux rien contre elle. Alors il était furax. Il était furax parce que il lui a dit, tu m'as menti. Tu m'as dit que tu étais le plus fort. Maintenant, Jésus est le plus fort. Mais si Jésus est là, l'autre ne peut pas s'approcher. Okay? Est-ce qu'on a compris ça? Donc, si vous venez demander une prière de délivrance, oui, il faut faire des coupures de ceci, de cela, absolument. Oh, j'ai besoin de... Vous savez, les gens viennent déjà avec leur menu. Mon père, j'ai besoin du grand exorcisme. Ok. Sauf que, est-ce qu'on est d'accord? Pour appartenir à Jésus et à Jésus seul. Et que Jésus soit l'époux de nos âmes. On fait alliance avec lui. Parce que le péché est une alliance avec le démon. Est-ce qu'on en a conscience de ça? Je vous ai déjà raconté l'histoire de Marino Restrepo. Qu'on a accueilli plusieurs fois, qui est un Colombien qui était dans le showbiz américain. Il n'était pas du tout croyant, sauf qu'un jour, il perd sa femme, il perd ses parents, il perd son oncle. L'hécatombe en quelques mois dans sa famille. Donc, ses sœurs lui disent, écoute, viens fêter Noël avec nous à Bogota, et on va se retrouver en famille, on en a besoin. Il y va et les sœurs l'obligent à faire la neuvaine à l'enfant Jésus. Vous connaissez son histoire, vous pouvez la retrouver sur internet. Bon, donc, il va faire la neuvaine, mais en tant que spectateur. Okay. Et puis, il y a le jour de Noël, et il fait tout ce qu'il faut au jour de Noël pour suivre ses sœurs. Puis après, il se dit, maintenant, je vais fêter Noël à ma façon. Okay. Donc, c'est là qu'il se fait prendre par les FARC. Cagoule sur la tête, et il se retrouve donc dans le coffre de la voiture, ça roule, et il se retrouve dans la forêt vierge. Et là, il est balancé dans une grotte avec les moustiques, les chauves-souris, enfin, toute cette faune-là, quoi. Et on lui annonce le programme. Il était très riche. On va te plumer, et ensuite, on va te tuer. Voilà le programme. Sauf qu'un jour, au bout de 3 semaines, à peu près, si mes souvenirs sont bons, il a une vision. Et ce n'était pas une expérience de vie après la vie. Hein. Il a une vision, la grotte disparaît et il voit Jésus. Tous les péchés de sa vie, sauf ceux qu'il avait déjà confessés. Intéressant ce truc-là. Les péchés qu'il avait confessés, il ne les voyait pas. Il voyait tout le reste. Et puis, quand il a cette illumination de la conscience, vous savez, eh bien, il se retrouve avec Jésus à faire un petit voyage au ciel, au purgatoire et en enfer. Et il disait en fait que ceux qui sont au purgatoire, je ne me rappelle plus très bien de l'enfer, ils sont liés aux démons qui étaient ceux de leur péché habituel. Un lien avec ce démon. Donc, comprenez que si le démon peut avoir un lien avec les morts, soit pour les emmener en enfer, Notre-Dame de Fatima dit qu'il y a quand même des mondes en enfer, bon, nous on prie pour qu'il y en ait moins possible, hein. C'est le message de Fatima, enfin, cette réalité, elle existe. C'est pas pour rire que je t'ai aimé, dit Jésus, un ange de folie. Alors, si effectivement le démon peut avoir des liens avec les âmes des défunts, vous comprenez qu'à travers les défunts, parce qu'il y a un lien de solidarité entre tout être humain, eh bien, il peut y avoir une influence démoniaque aussi. D'accord ? Donc, on est toujours dans le chapitre de la réparation. Comprenez que nos péchés sont un lien démoniaque qui peut nous entraîner dans des phénomènes d'obsession, mais en dessous, des phénomènes tout simplement d'addiction. Je ne peux pas m'empêcher, c'est plus fort que moi. Donc vous avez des colères, vous avez des addictions à différents trucs. Ça, c'est le lien de péché. Mais au-dessus, vous avez les obsessions, les oppressions d'abord, obsessions, enfin bref, jusqu'à la possession, quoi. La possession, quand même assez rare, ça touche des gens qui ont vraiment pactisé avec l'ennemi, quoi, mais ça reste assez rare. Bon, il peut y avoir aussi des vexations, des trucs qui sont extérieurs à nous, hein. Pour raconter, non, on ne va pas raconter ce qu'on a. Voilà. Donc, des trucs un peu bizarres qui peuvent vous arriver, des trucs qui cassent tout seul, et, bon, une machine à laver qui ne marche pas quand c'est avec vous, mais vous appelez le réparateur. Tout à fait normal, je me suis dit, ça c'est des vexations, bon, ok, mais on a aussi le lien, pas à nous, pécheurs, mais le lien démoniaque à nos défunts. Et c'est pourquoi on propose tous les premiers samedis du mois une messe pour nos défunts. Et avant la messe, il y a, donc ce sera un début d'après-midi pour ceux qui sont déjà venus, eh bien, il y a une prière de délivrance. Parce que Qu'est-ce qui se passe pendant la messe? Pendant la messe, c'est le sacrifice du Christ qui est là rendu présent. Si on avait la même grâce que Padre Pio, on vivrait les mêmes douleurs que le Christ sur la croix à chaque messe. Comprenez bien qu'une messe, il ne faut pas que ça aille trop vite, quand même. Sinon, on est dans une forme de profanation. Je voudrais avoir ma messe. C'est le sacrifice du Christ qui est là. Jésus, sur la croix, nous obtient le pardon de nos péchés. L'importance de prier pour nos défunts. Sur les générations. On a entendu la quatrième. Bon, nous, Seigneur, jusqu'à dans l'hier. Tout ce qui est à balayer, fais-le, s'il te plaît, Seigneur. Et on va demander pardon au nom de nos défunts. Pardon. Donc, c'est la première étape. Parce qu'ils ne l'ont pas fait. Ceux dont il est question. Ils sont morts sans se repentir vraiment. C'est moi qui ai raison. Je ne veux pas lui pardonner. Tu meurs comme ça. C'est un lien diabolique. C'est un péché. Parce que le commandement de Jésus, c'est pardonner. Et vous serez pardonnés. Soyez miséricordieux. C'est un commandement. Même si tu t'es fait massacrer. Regardez les témoignages magnifiques des gens qui ont vécu la guerre, ou les guerres. J'ai entendu il n'y a pas très longtemps du Rwanda. Et puis on l'a vu autour de Saint-Père, là, quand il est allé en Centrafrique. Vous avez des gens qui avaient perdu les mains, une femme qui s'était fait violer, un objet sexuel. Et puis elle arrivait avec son bébé, et moi j'ai pas voulu l'avorter, quoi. Et symboliquement, si vous l'avez vu, je trouvais ça magnifique, il déposait au pied de la croix les hachettes et les lances qui servaient pour la torture et le massacre, pour dire « je pose ce pardon ». Waouh ! Comprenez bien que le lien diabolique, il saute. Il saute complètement. Mais vous avez des ancêtres qui n'ont pas fait ce travail-là. Ils ne se sont pas repentis. Dans nos familles, on se bat pour des questions d'argent, puis on va mourir comme ça. Waouh ! Vous imaginez les traces que ça laisse ? On a prié pour des personnes, mais c'était ça leur truc, quoi. Dans les générations, il y avait de la spoliation. Mais sur plusieurs générations, ça ne marchait pas dans le boulot, ils n'avaient rien, et les procès, ils les perdaient tout le temps, la malédiction de péché. Oui. Puisque l'ancêtre, il a pactisé par son péché. Il ne s'est pas repenti. Donc, il reste en alliance. Et à travers lui, comme il a un droit de bénédiction ou de malédiction sur moi, qui suis sa descendance, vous voyez ce qui se passe. Donc nous, dans la prière, on va demander à Dieu pardon à leur place. Puis on va demander réparation. Dans la messe, on demandera pardon et réparation, mais moi je pense qu'il faut aussi en plus prier pour couper les liens sur nos ancêtres. Donc une prière de délivrance aussi sur les ancêtres. Parce que c'est pas parce qu'on a célébré la messe que le pacte satanique qui a été fait X générations avant va sauter. Ah si, tout est possible. Dieu peut faire tous les miracles. Mais il nous demande d'être précis lorsqu'on demande quelque chose. Et à la messe, on va obtenir surtout la guérison et le pardon des péchés. Mais quand Lazare, il est ressuscité, ben il faut le délier, d'accord? Alors à la messe, on est ressuscité, oui. Il y a une grâce de résurrection. Mais il nous reste à délier. Et ça, c'est ce qu'on va faire avant la messe. Est-ce que je me suis fait comprendre? Très bien. Eh bien,
musique.
Je crois que je vous ai à peu près tout dit pour aujourd'hui, parce que sinon... Oui, il y a des questions, oui. Oui, c'est ça. Bon, mais ça existe alors. C'est un prêtre sataniste. Non, 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 pas du tout, pas du tout. C'est en fait les sectes lucifériennes ou satanistes sont en général des organisations secrètes. Donc, ils se réunissent dans des lieux secrets. Et d'après les témoignages, c'est pas beau à voir. Voilà. Alors, donc, par contre, vous avez, je crois, à Paris maintenant, vous avez deux ou trois églises de Satan. Hein, trois. Voilà. Donc, vous avez sans doute un prêtre, là, qui se nomme prêtre de Satan. Bon. Mais voilà. Par contre, ils sont sans doute très dangereux. Hein. Mais ceux qui se réunissent la nuit, et tout ça, pour faire leur truc, ils ne vont pas faire une très grande publicité, sauf dans des milieux, dans certains milieux, qui peuvent être malheureusement assez élevés dans notre hiérarchie. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, voilà. Donc, prions pour ceux qui nous gouvernent. Si vous le voulez bien. J'espère que je vous ai convaincu.